Mesdames et messieurs, il est 17h à Yaoundé. Larissa Ngono et Maureen Wanzi-Wilaye à la présentation.
The 5 to 6 on the CRTV Radio Network. Our top stories.
Au sommaire du 17-18, Yaoundé, cadre de prédilection de la diplomatie parlementaire. La 30e Assemblée parlementaire de la Francophonie Région Afrique mobilise depuis ce matin 150 participants des représentations de 20 pays en terre camerounaise. Une participation record cette année. On fera le point avec nos correspondants et dans le focus du jour.
Delegates at the 30th Africa Regional Assembly of French-speaking parliaments have appealed for collective efforts to help their governments deal with socio-political and insecurity challenges. The Speaker of Cameroon's National Assembly opened deliberations this morning in Yaoundé. Today's focus of the day examines the relevance of the Assembly of French-speaking parliaments to Cameroun and Africa.
Un troisième congrès africain sur le numérique ferroviaire, le Cameroun Locomotive des Assises, ouvert au nom du chef de l'État par le premier ministre chef du gouvernement. Vous entendrez Joseph Diangouté dans ce journal.
At the third African Digital Congress holding in Yaoundé, Cameroon's prime minister has tasked all the stakeholders to develop a genuine digital strategy for the continent's rail sector. Despite some acts of insecurity reported in the northwest region, some 200,000 candidates have begun the written part of examinations organized by the Cameroon GCE Board all over the national territory in calm and serenity. Those were our top stories.
The 5 to 6 p.m. is 60 minutes of news and information about major happenings in the nation. Focus of the day. Sports, world news, in-depth report, investigative news report, the interview, the 5 to 6 p.m. guest, and much more on the radio network of the CRTV.
It's always our pleasure to have you on the CRTV radio network, and this is the 5 to 6 p.m. Proceedings of the 30th Africa Regional Assembly of the French-speaking parliaments, APF, have officially kicked off at the Yaoundé Conference Centre with high prospects of fruitful deliberations for a prosperous Africa and its people. Chairing the opening ceremony, the Speaker of the National Assembly, the Right Honourable Kava Yege Jibril, urged participants to formulate pertinent proposals to enable their various governments face different challenges of the hour. At the end of the official opening ceremony, the Parliamentary Affairs correspondent Doris Batita Toekwe asked the President of the Parliamentary Assembly of La Francophonie, Canadian parliamentarian Francis Drouin, how parliamentary diplomacy can be used to resolve conflicts in Africa. Here is what he had to say.
If we talk about certain political situations happening in the Francophonie space, there's certainly, if I take Gabon for instance, there's some issues, but l'APF needs to be there to accompany and provide advice. And when countries are facing a certain situation, democracy is not linear. There's ups and there's downs, but we need to continue to provide a dialogue. Right here in Cameroon is the right perfect example to provide this dialogue. In Africa, the La Région de l'Afrique always invites countries where they would be naturally suspended when there's coup d'etats, but they provide this dialogue for other parliamentarians to participate. Obviously, l'APF, we have certain values, but we want to ensure that we continue to accompany certain countries that are facing these political crises, because democracy, it's the best of the worst systems, but we must continue. It's the representative of the people, and we must continue this dialogue in order to provide best representation for the people.
Francis Drouin, président de l'APF, au micro de Doris Batita Toekwe. Les travaux de la 30e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie se déroulent avec en toile de fond deux préoccupations. D'une part, l'utilité de la diplomatie parlementaire pour l'Afrique francophone et d'autre part, le recours au dialogue et le fonctionnement des institutions étatiques. Du point de vue de quelques parlementaires africains, l'Afrique gagnerait à davantage consolider le dialogue politique pour s'assurer une paix durable et la cohésion sociale. Il s'exprime dans ce reportage de Clarisse Ndjonga.
Aucune société ne se construit dans le tumulte. L'Afrique l'a compris et c'est en rang serré que les États avancent vers le dialogue politique malgré les velléités de toute nature qui tendent à les fragiliser.
L'honorable Issa Marque, député centrafricain. L'Afrique est secouée par les multiples crises. C'est le dialogue qui peut amener la paix, la cohésion sociale, la réconciliation.
Honorable Mourinha, député du Sénégal. Le dialogue politique est un instrument très efficace pour l'unité des peuples. Au Sénégal, on a une tradition de dialogue politique des institutions.
Sénateur Samuel Obama-Sam, vice-président de la sous-commission de l'éducation et de l'Assemblée parlementaire de la francophonie.
Au regard de l'actualité, situation politique dans certaines régions d'Afrique, l'APF a choisi ce thème-là pour qu'on en débatte parce que nous sommes dans plusieurs situations, dans des conflits et des positions qui demandent le dialogue, la concertation, que des gens se parlent, que les gens tombent d'accord ensemble sur un certain nombre de choses.
Pour le député de l'Assemblée nationale de transition au Gabon, Angélique Ngoma, le dialogue politique est intimement lié au développement communautaire.
Les représentants doivent échanger avec les différentes institutions pour aboutir à une sérénité, à une paix durable, mais aussi pour arriver à satisfaire les besoins des populations.
Le deuxième thème qui sous-tend les travaux de Yaoundé questionne l'utilité de la diplomatie parlementaire pour l'Afrique francophone, décidée à parler d'une seule voix.
Hassan Ben Omar, chef de la délégation marocaine, on essaie de s'unir l'Afrique en une seule voix. Plus on se réunit, plus on devient un seul organe et c'est important pour l'Afrique.
La diplomatie parlementaire en Afrique prend véritablement son envol.
The Prime Minister, head of government, has invited stakeholders, experts and investors of the railway domain in Africa to brainstorm on ways of defining a genuine digital development strategy for the rail sector. He was speaking today in Yaoundé while officially opening the third African Digital Rail Congress in the name of the President of the Republic. The event is being organized by the International Union of Railways in conjunction with the government of Cameroon. Star Building correspondent Christian Chata.
After the first two sessions of the African Rail Digital Congress, which took place in South Africa 2019 and Tunisia in 2022, the International Union of Railways chose Yaoundé for its third meeting to continue reflections on ways of encouraging the design and development of a truly African digital rail strategy, which aligns to the AU Commission's Agenda 2063. The about 150 experts, investors, and partners of the rail sector meeting in Yaoundé have the challenge of defining the future for the digitalization of railways and services on the continent, identify major projects to be launched, and support the coordination of activities aligned to the AU Commission's Agenda 2063. During the official opening of the Congress, the Vice President of the International Union of Railways, who is President of the African Union of Railways, and the Director of Rail Systems at the International Union of Railways, said it is imperative for Africa to invest in the digitalization of railways management and services in order to promote the growth of innovative services and to make rail transport once more the backbone of land-based mobility for passengers and goods, thereby helping the continent to adapt to climate change. The director of Cameroon's rail transporter, Camrai, for his part, noted that the company has already engaged in a series of processes which is placing her at the fore of digital transformation. The Prime Minister, head of government, Joseph Diongote, who represented President Paul Biya at the opening ceremony, said Cameroon's railway master plan envisages the extension of rail lines to cover production basins, mineral sites, and enclaved areas. Joseph Diongote said the incorporation of digital solutions is of high priority in the country's development strategy. Deliberations at the Third African Digital Rail Congress are expected to result in the identification of major projects to be launched, establish profitable synergy among stakeholders of the rail sector in Africa, and contribute towards a true digital master plan for rail transport on the continent. Christian Cheatam, CRTV, the Yaoundé Hilton.
Le Cameroun s'honore de servir de garde d'embarquement au 3e congrès africain sur le numérique ferroviaire. Le chemin de fer contribue de manière significative à la mobilité interurbaine ainsi qu'au renforcement de la solidarité et de l'intégration nationale. Ce sont là des propos du représentant personnel du chef de l'État, Paul Biya, à l'ouverture du 3e congrès de l'Union internationale des chemins de fer. Ce mardi à Yaoundé, le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Gouté, que je vous propose d'écouter dans cet extrait d'allocution sélectionnée par Laurentine Bocono.
Cette 3e édition du congrès africain sur le numérique ferroviaire a pour thème central, et je cite, « Le digital, un défi pour booster la chaîne de valeur ferroviaire ». Fin de citation. Solibellé appréhende le numérique comme un enjeu essentiel dans le processus de dynamisation de l'activité ferroviaire. Il convient de souligner qu'au plan socio-économique, le chemin de fer au Cameroun contribue de manière significative à la mobilité interurbaine ainsi qu'au renforcement de la solidarité de l'intégration nationale. Ces différentes considérations, vous en conviendrez avec moi, font du transport ferroviaire un secteur névralgique. C'est la raison pour laquelle le Cameroun s'est doté d'un ambitieux plan directeur ferroviaire national qui va permettre l'extension du réseau actuel par la construction de nouvelles lignes, la connexion des grands bassins de production et d'exploitation de minerais aux ports, ainsi que le désenclavement des localités riveraines avec pour corollaire la création de nombreux emplois décents. Il est incontestable que le numérique devra occuper une place centrale dans la réalisation de l'ensemble de projets ferroviaires projetés dans notre pays. Je dois d'ailleurs reconnaître que le chef de l'État du Cameroun, Son Excellence Paul Biya, dans sa posture de visionnaire, a anticipé cette approche. Dans son message de fin d'année 2018 et de nouvelle année 2019, le président de la République appelait déjà l'attention de ses concitoyens en soutenant, et je cite, « Il est indispensable que nous fassions davantage pour intégrer le progrès du numérique dans le fonctionnement de nos services publics et notre économie. La société digitale qui s'annonce n'attendra pas les rétardateurs. » Fin de citation. Il s'agit clairement d'une invite à positionner le numérique comme l'un des leviers prioritaires du développement socio-économique.
Le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Gouté, que vous écoutez alors qu'il est 17h passé de 13 minutes. Dans la suite du 17-18, Maureen, des nouvelles du déroulement des épreuves du GCE.
That's right, Larissa. Reports from Cameroon's 10 regions indicate that the 2024 session of examinations organized by the General Certificate of Education, GCE Board, have kicked off hitch-free despite a few cases of security concerns, absences, and late coming on day one of the examinations today. Over 196,000 candidates are sitting the examination for the ordinary and advanced level in 443 accommodation centers. The highest number of candidates are in the center and littoral, followed by the southwest region, where the exams are unfolding in a serene atmosphere across the six divisions of the region. The delegation led by the southwest governor, Okalia Bilai Bernard, has been to the field to get the polls of the exams. Regina Ngale Ndoko.
Over 40,000 candidates are sitting for the 2024 session of the GCE in 99 accommodation centers across the southwest region. The exams, which started at 8 a.m., left some students optimistic.
Called Ibo Demis. Economics was the first subject we were writing, so it's my first experience. Before writing, I never had the courage. Enter the hall. I thought the fear would be inside me, but just calm. The exam was not difficult and it was not easy.
Administrative officials led by Southwest Governor Bernard Okalia Bilai made stops at the different accommodation centers in Boye. According to the Regional Delegate of Secondary Education, Dr. Hannah Etondembua, the exam is unfolding smoothly.
We have all our centers have the candidates. We've not had any report of any incidents. All the centers started at 8 o'clock, but for a few who, because of the crowd and other administrative and technical hitches, started a few minutes after 8.
According to officials, security measures are in place to ensure the exams proceed without disruptions for the next 2 weeks. Regina Ngale, Ndoko, CRTV News, Boye.
Next door in Douala, the examinations began in all accommodation centers without any major incident. Skola Maloke visited some of the centers and reports that all is unfolding smoothly despite some cases of late coming recorded at Government Bilingual High School, Dado.
These are candidates a few minutes to 8 a.m. when the examination is scheduled to begin, rushing from one hall to the other, searching for the assigned halls. Most of the late comers, according to the chief of center, candidates from other sub-centers who are being accommodated at the Government Bilingual High School, Daido. Elango Wasenanje is the chief of center.
Lycée Bilingue Daido is hosting about 6 sub-centers. This morning, it's unfortunate that we had some candidates coming late and shows how unserious the candidate is.
Unlike GBHS Daido, which hosts a total of 2,525 four candidates in both ordinary and advanced levels, Government Bilingual High School Bipanda, which holds the record for the best government school with the best results in the littoral region, hosts 1,293 candidates. Edeliam Biatem heads the GC Secretariat.
Which is Bipanda is accommodating 5 different centers. For the ordinary level, we're expecting 588 candidates who are all present. And for the advanced level, we have just one candidate who is absent for geology.
Apart from the cases of late coming and some absences recorded, the 2024 session of the GCE board examinations is proceeding smoothly in Douala. Skola Maloke, CLTV News, Douala.
The 2024 General Certificate of Education GC examinations has kicked off in the South Regional Capital without major hitches. Our South Regional Correspondent Silas Nguyen visited the Lone Accommodation Center in Ebolova and filed this report.
The atmosphere in this accommodation center in Ebolova is characterized by an imperturbable calm to which candidates are attached.
I'm feeling very well. I'm happy to hide today.
The first subjects, economics paper 1 and geology paper 1, are reassuring here.
I know that I will pass my exam this year.
I have a lot of confidence and I overcome this period of fear. I'm very ready for my exam.
All necessary measures have been taken to ensure the smooth running of the examination, as the representative of the chief of Government Bilingual High School Ebolova's accommodation center, Ngwa Gilbert Ambe, explains.
In this center, we have a total of 914 candidates, 587 for ordinary level and 327 for advanced level. Everything is under control. There is no problem.
Much to the satisfaction of the exams superintendent from the GCE board, Isaac Ndama.
Here in GBHS Ebolova, it has started this morning hitch-free and the candidates are present and the examination is going on smoothly.
Of the 3,338 candidates sitting the examination across the south, 1,106 are writing in the ocean, 519 in the Ntem Valley, and 479 in the Njan-Lobo division. Silas Nguyen, CRTV News, Ebolova.
Larissa, more on the conduct of the GCE exams in the Mefu and Nakona in the center region.
Calme et sérénité ont prévalu dans les sous-centres d'examen écrits du baccalauréat général du GCE et du baccalauréat technique dans ces différents départements de la région du centre, constat ce mardi en Ngoumou et en Bankomo lors de la descente du secrétaire général du ministère des enseignements secondaires, Fabien Cotte, représentant le ministre Nalo Valionga. Détail dans ce reportage de Fatmé Bintouakoum.
Au lycée de Ngoumou, 176 candidats prennent part depuis hier au baccalauréat de l'enseignement secondaire général. Le sous-centre d'examen écrit du lycée technique et commercial de Ngoumou affiche 72 candidats au baccalauréat des sciences et techniques tertiaires et 113 au baccalauréat technique économie sociale et familiale. Les candidats se disent confiants.
Je me suis demandé, élève en classe de terminale T. La première épreuve, c'était l'épreuve de maths. Elle était plutôt abordable.
Mingi Mirana Fortune de la terminale TI. Aujourd'hui, on a composé le projet de mathématiques. Il était plus ou moins bien.
Au sous-centre d'examen écrit devant Bankomo, 21 candidats ont abordé le baccalauréat général et 294 au sous-centre d'examen du lycée bilingue de Bankomo. La délégation du ministère des enseignements secondaires a dit sa satisfaction au terme de sa descente. Fabien Cotte, secrétaire général du ministère des enseignements secondaires.
Tout se passe bien. Il y a très peu de candidats qui sont absents. Tout le personnel d'encadrement est présent.
Les épreuves écrites se poursuivent jusqu'à vendredi prochain.
Tout autre chose dans ce journal, le ministre de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement de la République du Congo. Au Cameroun, Madame Inès Neferberti Ingani Vumboyalo est au Cameroun. Elle a été reçue en audience par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat, Achille Basile-Kin III, dans le cadre de la première édition du Forum africain de l'économie sociale et solidaire qu'organise son département ministériel. Au centre de leurs échanges, la question de l'économie sociale et solidaire qui, pour le membre du gouvernement, est la pierre angulaire du développement durable. Écoutons le ministre au micro de Tatiana Ibuto.
Dans nos pays, l'économie informelle est vraiment au centre du développement. Lorsque on développe bien ce secteur, on peut mieux améliorer notre PIB. Donc cela est une initiative que nous souhaitons qui puisse s'étendre au niveau de l'Afrique en essayant de faire comprendre à des plus hauts niveaux que cette économie peut lutter réellement contre le chômage et peut lutter aussi contre la pauvreté. L'économie sociale et solidaire était la pierre angulaire du développement durable. C'est l'économie sociale et environnementale qui va lutter contre la pauvreté, contre la vie chère et avoir des emplois décents.
La Caisse des dépôts et consignations dans la suite de ce journal en vue de son opérationnalisation. L'institution tient des échanges avec ses partenaires. Après les acteurs du monde de la finance, il y a quelques jours, le directeur général de la CEDEC s'est entretenu ce mardi avec les dirigeants des structures parapubliques. Objectif, lever tout équivoque qui pourrait encore subsister face à l'arrivée de ce nouvel acteur dans l'environnement institutionnel camerounais. Détail avec Oswald Medung.
L'opérationnalisation de la Caisse des dépôts et consignations exige de ses acteurs qu'ils soient sur la même longueur d'onde. D'abord pour comprendre son rôle, mais surtout pour mieux appréhender son fonctionnement. Et c'est là tout l'enjeu de la série de consultations que le top management de la CEDEC a entrepris ces derniers mois. Ce mardi, face à Richard Evinobam et ses collaborateurs, les directeurs généraux des principales entités parapubliques du pays, SNH, CRTV, ART, CAA et bien d'autres, au total quelques dizaines de structures représentées. La rencontre, qui se situe à quelques jours seulement de la date butoir du 31 mai, accordée par le Premier ministre pour le transfert des fonds et valeurs dévolus à la CEDEC, revêt un enjeu capital. La mission de la Caisse des dépôts et consignations étant celle de recevoir, conserver et gérer les sommes et avoirs publics ou privés conformément aux lois et règlements en vigueur, il est primordial d'accorder tous les violons. Et le directeur général de la CEDEC de préciser qu'il s'agit là d'un instrument de financement alternatif et endogène qui vient répondre à un besoin de financement du développement socio-économique du Cameroun. Et à ce titre, il est nécessaire que chaque partie prenante joue sa partition. Les banques, les assurances, la justice, mais aussi les structures parapubliques. Et quant aux réticences qui subsisteraient encore, le directeur général de la CEDEC se veut rassurant. Le rôle de la Caisse n'est nullement de déstabiliser les ordres établis. Elle est plutôt un investisseur institutionnel à long terme qu'il faut voir comme tel. Aussi, la Caisse des dépôts et consignations s'engage-t-elle à prendre en compte les particularités des acteurs concernés pour une opérationnalisation harmonieuse.
Et ce mardi a également vu la cérémonie d'installation du nouveau manager de la Kikot Mbebe Hydropower Company cet après-midi au Mont Febe Hotel à Yaoundé sous la présidence du ministre de l'Eau et de l'Énergie. Gaston Elounou Essombo n'a pas manqué de féliciter le promu tout en reprécisant les attentes du gouvernement vis-à-vis de ce projet d'envergure de 500 MW pour une amélioration significative de l'offre de production énergétique. Son profil avec Coralie Laetitia Émilie.
C'est un ingénieur hydraulicien produit de l'Institut National Polytechnique de Grenoble qui préside désormais aux destinées de la Kikot Mbembe Hydropower Company. L'ingénieur français est aussi titulaire d'un diplôme de troisième cycle de l'Institut d'administration des entreprises. Un visage bien connu du secteur énergétique en France, l'homme comptabilise près de 30 ans d'expérience au sein du géant français de l'électricité, EDF. Au sein de l'entreprise, il occupe divers postes de responsabilité, dont le plus récent en date est celui de directeur régional de la Société d'électricité de France, EDF, Archipel Guadeloupe. C'est donc nanti de cette riche expérience professionnelle que l'ingénieur français dépose ses valises au Cameroun pour mener à bien le projet de construction du barrage Kikot sur le fleuve Sanaga. Dans son cahier de charges, deux principales missions, la mobilisation des financements pour l'aménagement hydroélectrique de Kikot et le démarrage effectif des travaux sur le chantier. La Kikot Mbembe Power Company est une entreprise projet détenue par l'État du Cameroun et la France. L'initiative vise ainsi à doter le Cameroun d'un nouveau barrage d'une capacité de 500 MW pour une enveloppe budgétaire estimée à 650 milliards de francs CFA.
Et puisque nous parlons d'eau et d'énergie, parlons de ces 2000 personnes de l'arrondissement de Bipindi, traversées par le pipeline Tchad-Cameroun, désormais approvisionnées en eau potable. Le précieux liquide issu d'un forage à énergie solaire photovoltaïque, construit et équipé à hauteur de 22 millions de francs CFA par la société Codeco, l'opérateur de ce pipeline, a été rétrocédé à la municipalité. Une action sociale en droit de ligne de la politique d'accompagnement des populations locales sous l'impulsion des chefs d'État du Cameroun et du Tchad, célébrée à la place des fêtes de Bipindi, en présence de Jules Wak Mbala, directeur des relations publiques, représentant le directeur général de Codeco. Précision à Bipindi avec Dieudonné Noira, CRTV Sud.
Ce forage à motricité d'énergie solaire rétrocédé à la commune de Bipindi, une localité traversée par le pipeline Tchad-Cameroun, est un don de la société Codeco. Jules Wak Mbala, directeur des relations publiques, représentant le directeur général de Codeco.
Société citoyenne qui a pour mission principale de transporter le pétrole brut en toute sécurité à partir des champs pétrolifères au Tchad à travers le pipeline Tchad-Cameroun vers les marchés internationaux. Codeco effectue un certain nombre de projets en faveur des communautés riveraines du pipeline Tchad-Cameroun.
Le forage en question, une technologie nouvelle et impressionnante, à énergie solaire et photovoltaïque, est notamment équipé d'un château d'eau de 15 mètres cubes, à même de procurer le précieux liquide à plus de 2000 personnes. Valeur de cette installation hydraulique, 22 millions de francs CFA.
L'eau est à côté de ma maison, je vous dis merci.
Une eau très propre, potable, buvable, limpide. Merci par rapport aux dons.
La cérémonie de rétrocession officielle de cet imposant joyau architectural, l'aboutissement d'un partenariat entre Codeco et la commune de Bipindi, était un grand moment de joie et d'allégresse. Elias Bilon, maire de Bipindi.
Cette infrastructure d'une grande envergure offerte par Codeco vient à point nommé pour renforcer la vie à Bipindi. Je voulais tout simplement dire un grand merci à cette entreprise qui a déjà plusieurs fois agi à Bipindi.
Sous l'impulsion du directeur général de Codeco, Jean-Paul Simon Dionou, qui implémente par ce geste citoyen la vision des deux chefs d'État du Cameroun et du Tchad, Bipindi dans la région du Sud bénéficie désormais d'un équipement de pointe construit par Codeco dans le cadre de sa responsabilité sociétale et qui produit de l'eau potable pour le bien-être des populations riveraines. Fanja Lamedio, sous-préfet de Bipindi.
Féliciter la société Codeco pour la qualité des services donnés et nous les appelons davantage à être à l'écoute des sollicitations des populations locales.
Sur place à Bipindi, des personnes ont été formées par Codeco pour assurer la maintenance de ce forage. Bipindi, Dieudonné Noira, CRTV.
À 17h passées de 28 minutes, vous êtes sur le poste national. Mesdames, messieurs, vous écoutez le 17-18. Et dans le 17-18, Maureen, à présent, parlons de décentralisation avec la modernisation des infrastructures dédiées au développement local dans la région du Nord.
And the Minister of Decentralization and Local Development has reaffirmed government's determination to pursue the modernization of infrastructures which could spur grassroots development. George Elangaobam gave the assurance in Muturoa, Mayo Kani Division, while officially inaugurating the about 417 million worth council edifice with 85% of the cost funded by FICOM as subvention. The modernization of council buildings is imperative within the framework of effective decentralization as conceived by the head of state, President of the Republic, Paul Biya, as highlighted by the Minister of Decentralization and Local Development, George Elangaobam, in the following excerpt of an interview selected for us by Ayuk John Ashu.
It is important for our cities to have headquarters where people can come and be served by mayors. We also want to have buildings to show that the city is growing. And when we look at Muturoa, everybody who is passing here going to Garoua, to Maroua, will have a look at this building. So it is useful that people work in good conditions. That's why not only here, all the councils at the end of the program should have new buildings. And we think the mayor did something very marvelous. The FECOM did a very good job. And the enterprise who built the building was good. So it is good for the people of Muturoa to have such a building.
The foundation stone for the construction of decent and low-cost houses for commercial bike riders has been laid in the Peka 21 neighborhood in Douala by the Minister of Housing and Urban Development. Minister Celestine Kecha-Cortez presided over the ceremony, during which she revealed that more than 130 houses will be built within 2 years. At the end of the day two working visit, Minister Celestine Kecha-Cortez reminded the necessity to build a low-cost house for bike riders, as well as emphasized on recommendations to facilitate the completion of all projects under the Inclusive and Resilient Cities Program in Douala. Here is an excerpt of the minister selected by our reporter, Roslyn Fosser.
In June 2024, all these projects will be completed. And this is the wish of the head of state to ameliorate the life condition of the population. Happy to see that we have launched the program of one motor taxi, one decent and affordable house. And we'll duplicate this wonderful project in other cities. If we constructed, as wished by the head of state, housing for motor taxi, for Bayam Salam, for displaced people in our cities, and for those of the company who continue to job, I've give a strict instruction. All the projects should be completed in due time.
The 2024 Africa Day has been marked in Yaoundé today. Chaired by External Relations Minister Mbela, the commemorative event took place at the Esplanade of the Ministry of External Relations. Amongst the guests was the special representative of the Secretary General of the United Nations to Central Africa, Charles Ebune.
Almost midday in Yaoundé, Cameroon today, time for Africa Day celebration 2024. At the forefront of the celebration is the African diplomatic community in the country, as well as other diplomats who have come to commune with their African friends. Mbela Mbela is External Relations Minister.
It is important to pay earnest tribute not only to the founding fathers of the Organization of African Unity, OAU, now African Union, AU, but also to evaluate the efforts made so far within a theme-based choice made by our leaders and to set out the prospect for the future.
Amongst the special guests for the event is the special representative of the Secretary General of the United Nations to Central Africa, Abdul Abari, and the discourse for the theme on education is delivered by Professor Charles Bikoy. The focus on this year's Africa Day event is on education, wherein Cameroon has heavily invested for the past years. Mbela Mbela is External Relations Minister.
That the real challenge today is more than ever to adapt the African educational system to the current need and realities of our continent.
The message of the African Union Commission head, Moussa Faki Mahamat, is read. Africans showcase their diversity culturally as an appointment is taken for next year.
Improving on toilets and sanitary pad disposal facilities at school while incorporating the teaching of menstrual hygiene on the school curricula, gynecologist says the ultimate way to enable young girls stay safe at school during their monthly menstrual flow. This as Cameroon joins the international community to observe this year's edition of the Menstrual Hygiene Day on the theme Together for a Period-Friendly World. Elizabeth Mbo-Mbone-Agbo tells us more.
The stench that usually emanates from some school toilets, talk less of the hygiene on ground, is usually a discouraging factor for many young girls at school during their monthly menstrual flow. Dr. Lilian Babningwana, an obstetrician gynecologist, throws more light.
During menstruation, a woman is very, very susceptible to infections. Blood vessels are open that can easily take in infections and make the girl child sick. So we encourage all schools to have very clean toilets.
A call for concern to the school officials, some of whom are already gaining consciousness. Paul Lukong, a school principal, attests.
We have acquired a stockpile of sanitary pads that are readily available to handle any eventuality.
A shared responsibility between the school, the parents, and the girls. Dr. Neng Humphrey-Teta, an obstetrician gynecologist, affirms.
For the school authorities, each school should at least have a health department with the healthcare provider. The schools must also provide good toiletry facilities with possible changing rooms and disposal facilities for sanitary pads. Menstrual cycle and hygiene should be part of school curriculum. Parents of young girls should educate their children on what is menses, the attitude to adopt. Girls have to be attentive to their body to detect any changes.
Together for a period-friendly world, as reflected on the theme of the 2024 edition of the World Menstrual Hygiene Day.
We have some official telegrams sent to President Paul beyond the occasion of the National Day celebration. This is from Nicaragua. On the commemoration of the 52nd anniversary of the Unitary State Day, this coming May 20th, allow us to express the warmest congratulations of the people of Government of Reconciliation and National Unity of the Republic of Nicaragua to the brother people and government of the Republic of Cameroon from our Nicaragua, always blessed and always free. We are pleased to reiterate our firm will to continue strengthening the bonds of friendship, solidarity, and cooperation that unite our people and government. It is signed by Daniel Ortega Saavedra and Rosario Murillo. We have these other on the occasion, on this auspicious occasion commemorating the 52nd National Unity Day anniversary of the Republic of Cameroon. It gives me great pleasure to convey on behalf of the government and people of the Republic of Liberia and in my own name, warmest felicitations to you and through Your Excellency, to the government and brotherly people of Cameroon. As you celebrate this historic day, we are hopeful that you will continue to uphold the peace and stability subsisting in Cameroon for the benefit of its people and the sub-region. Furthermore, Liberia looks forward to exploring bilateral economic and development cooperation in shared areas mutually beneficial to our two countries and peoples, while upholding the tenets of African unity. It is our fervent hope that the grand architect of the universe will continue to endow Your Excellency with abundant wisdom and good tidings as you lead your people to greater prosperity. Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration. It is signed Joseph Numa Bukai. And these are the official telegram. On the occasion of celebrating the National Day, on which you commemorate the announcement of Republic Day, it is our pleasure to convey to Your Excellency and through you to the government and the friendly people of the Republic of Cameroon our heartfelt congratulations. We wish Your Excellency health, happiness, and continuous success in leading your country and people and the achievement of the goals that you aspire. We would like to express our pride in the relations of friendship and solidarity that unite our people and countries, and our appreciation for your positions of solidarity in supporting the Palestinian people and their cause in order to achieve their legitimate rights to freedom and independence, ending the bloody Israeli occupation, aggression against our people, and contributing to alleviating its disastrous effects. Please, Your Excellency, accept our best regards. It is signed by His Excellency Mahmoud Abbas, President of the State of Palestine.
Et le 17-18 se poursuit avec la formation professionnelle. Le lancement officiel de la première édition de la Semaine des emplois verts, c'était cet après-midi à l'hôtel de ville de Yaoundé, sous la conduite du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle Issa Tchiroma Bakari, qui accompagnait plusieurs partenaires au développement, avec lesquels on a planché sur les opportunités des centres qui vont en découler. L'Observatoire national sur les changements climatiques évalue ses comptes à l'occasion de la 17e session ordinaire de son conseil d'administration. Une gestion efficiente du budget prévisionnel de 2023 qui a permis à l'ONAC de redoubler d'ardeur dans l'exécution de sa feuille de route. En l'occurrence, aider le Cameroun face aux changements climatiques à travers l'atténuation et l'adaptation. Un sujet de santé pas toujours connu à présent ce mardi est Journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Le Cameroun, qui connaît encore quelques blocages et autres tabous quant à la protection de la jeune fille dans ce domaine, est interpellé au premier chef. Qu'est-ce qui est fait et que faut-il encore faire pour mieux vulgariser l'hygiène menstruelle? Réponse dans ce reportage de Liliane Movungo.
Au Cameroun, malgré les efforts d'assainissement palpables dans les écoles, nombre de jeunes filles abandonnent encore complètement les bains lorsqu'elles sont en période de menstrues. Docteur Bernard Otabela, gynécologue obstétricien.
Pour avoir parcouru beaucoup d'établissements secondaires, mais même le primaire jusqu'à l'université, il faut renforcer, instituer l'éducation des jeunes, de la jeune femme à l'école, parce qu'elle fait défaut.
Que faut-il donc faire pour permettre à la jeune fille de mieux gérer cette étape sensible de la vie?
Cette éducation doit commencer à la maison, par la mère, pour la jeune fille, à savoir qu'elle aura à un moment donné des saignements qui vont arriver, qui peuvent la suspendre à l'école, qu'elle ne panique pas, et pour qu'elle soit donc apte à attendre. Prévenir vaut mieux que guérir.
Il peut arriver que ces règles soient encore douloureuses. Et dans ce cas,
en cas de règles douloureuses, il faut donner un médicament antidouleur comme du paracétamol une à deux fois par jour pendant la durée des règles, pendant le temps que c'est nécessaire ou en attendant que la femme accouche ou alors dès qu'elle a tout simplement atteint la maturité.
Le milieu éducatif devra désormais tenir compte de la situation de la jeune fille lorsque survient cette période de menstrues. Son bilan scolaire ne devrait plus de nos jours accuser le coup.
Get the latest news in Cameroon, Africa and the world only on the 5 to 6 p.m.
La deuxième partie du 17-18 avec tout d'abord le focus du jour qui revient sur les travaux de la 30e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie en cours au Palais des congrès de Yaoundé depuis ce matin. La rencontre est placée sous le haut patronage du président de la République, Paul Biya. Et à ce conclave ouvert par le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, le très honorable Kavayégué Djibril, députés et sénateurs venus d'une vingtaine de pays débattent du recours au dialogue politique dans le fonctionnement des institutions et de l'utilité de la diplomatie parlementaire en Afrique. Occasion d'un partage d'expériences quant à cette coopération riche et diversifiée. Et pour mieux cerner la place de choix de cette instance dans la diplomatie parlementaire en Afrique, le focus du jour est porté ce mardi par Pontianos Laon, déjà en notre compagnie dans ce studio.
Pontianos Laon, good afternoon.
Good afternoon.
You're welcome.
Good afternoon, Maureen. Larissa, good afternoon.
The 30th edition of the Africa Regional Assembly of French-speaking parliaments has today opened at the Yaoundé Congress Center under the distinguished patronage of the President of the Republic, Paul Biya. Officially opening the three-day event, the Speaker of the National Assembly of Cameroon, the Right Honorable Kavayégué Djibril, who urged participants to work towards a more prosperous, conflict-free and peaceful African continent. Pontianos, let's begin by understanding what is the Assembly of French-speaking parliaments all about.
Yes, Maureen, initially it was the French Language International Association, which was created in 1967 in Luxembourg and with Cameroon as a founding member. Just to indicate here that Mr. Marcel Mbua Marigo, Speaker of the then Federal National Assembly of Cameroon, was among the founding fathers. In 1998, the association was transformed into the Assembly of French-speaking parliaments, which is the representative and consultative assembly of French-speaking countries. The role of the association is to adopt resolutions on matters concerning La Francophonie member countries. And Maureen, we are talking here of matters that delve into the political, economic, social, cultural, educational, and environmental domains. Perceived from a political spectrum as a democracy watchdog, the APF serves as an avenue for discussion and exchange of ideas. Each member country constitutes a section of the APF, and the Cameroon section is presently headed by Honorable Hilarion Etong, first Deputy Speaker of the National Assembly.
Can you briefly tell us about the 30th session? Who are the participants and what are the issues at stake?
Of course, Maureen, 20 sections are represented or representing 20 of the 28 African member countries of the APF, and have answered present for the 30th session of the Africa Regional Assembly of the French-speaking parliaments hosted by Cameroon, and that will run for 3 days. That's a total of about 150 participants, amongst them 9 section presidents that have attended the opening ceremony this Tuesday, May 28, 2024. Two themes have been chosen for the event, namely political dialogue and the functioning of the state institutions on the one hand, as well as the importance of parliamentary diplomacy to French-speaking Africa on the other. The resolutions of this assembly, it should be noted, will constitute Africa's position at the global APF come together scheduled for Montreal, Canada in July this year.
But before you go, Pontianus, what does Cameroon benefit from pertaining to such a structure?
Permit me say, Maureen, that interparliamentary diplomacy contributes in building bridges among countries with the aim of improving governance and enhancing global peace. In this respect, the APF has adopted a series of resolutions in the political, economic, socio-cultural, educational, and environmental domains which have been of benefit to Cameroon as a member country. In the same dimension, the APF has contributed in building the capacities of parliamentarians as well as administrative staff of the parliament in various areas. The most recent case, Maureen, is the training of Cameroonian and Gabonese parliamentary staff on the organization of parliamentary work, and that was from the 13th to the 16th of December 2022 here in Yaoundé. Last but not the least, Maureen, in 2018, Cameroon benefited from the technical support of the APF to modernize its Noria digital program that permits for the setting up of web television, which is appropriate for live broadcast. That will be it for today, Maureen.
Thank you very much, Pontianus Lawang, for coming on the 5 to 6.
It's been a pleasure.
L'Assemblée parlementaire de la Francophonie a pour vocation d'être une force de propositions pertinentes pour nourrir le débat au sein du continent. Ainsi s'exprimait le président de la section mauricienne à l'ouverture des travaux de la 30e Assemblée de l'APF. Invité du 17-18, le très honorable Soroj Foukek, le président de l'Assemblée nationale de l'île Maurice, lève un pan de voile sur la trame de ces assises. Le président de l'Association des parlements des États membres de la Commission de l'Océan Indien s'entretient avec Julienne Paul Ngona.
Le très honorable Soroj Fokia, bon après-midi.
Bon après-midi.
Vous êtes le président de l'Assemblée nationale de l'île Maurice. Vous êtes également président de l'Association des parlements des États membres de la Commission de l'Océan Indien.
En effet, madame, je suis très honoré d'être ici parmi vous.
Bienvenue au Cameroun.
Merci beaucoup.
La première question que j'aimerais vous poser, c'est celle de savoir quels sont les principaux enjeux de la 30e Assemblée des parlementaires Région Afrique.
L'enjeu principal, je dirais, c'est situé au niveau de la coopération entre les États africains et pour dégager une stratégie, surtout aux États, parmi les États africains, parlant la langue française, pratiquant la langue française, de dégager une stratégie conjointe, collective, pour qu'on puisse faire face aux grands défis du monde et surtout dans la région africaine.
Monsieur le président de l'Assemblée nationale de l'île Maurice, on sait que l'APF est une assemblée représentative et consultative, une force de proposition en quelque sorte. On aimerait savoir, au niveau du suivi, qu'est-ce qui est fait des résolutions prises à l'issue des travaux?
En effet, vous posez la bonne question parce que, puisqu'on est consultative, une force de proposition, ben, on essaye d'efforcer pour soutenir tout ce qu'on propose, pour discuter davantage et faire matérialiser nos propositions. C'est dans ce sens que nous aurons l'occasion peut-être à l'avenir de faire entendre notre voix aux Nations Unies. Mais jusqu'ici, permettez-moi de vous le dire, au niveau de l'océan Indien, nous avons déjà constitué l'Association des parlements et dont je suis le président. Et là, on fait avancer la cause encore une fois. Et comme ça, au niveau international, la francophonie avance la cause de tous ces pays qui font face aux défis que fait face le monde entier.
Deux thèmes portant sur le dialogue politique et la diplomatie parlementaire. Quelle utilité pour l'Afrique? Qu'est-ce qui justifie le choix de ces axes de réflexion?
À juste titre, le dialogue politique, il n'y a pas mieux que ça entre les États africains. À regarder tout ce qui se passe sur le continent africain et un peu ce qui se passe au niveau du monde entier, en général, le dialogue politique, il faut le favoriser. C'est ça notre avenir, à travers le dialogue, la démocratie qui favorise le dialogue politique, et c'est ça notre avenir pour le continent africain. D'autre part, la diplomatie parlementaire a sa place dans cet espace francophone, parce que la diplomatie parlementaire, c'est ça qui avance les causes, les stratégies et qui fait bouger plusieurs peuples en même temps.
Nous allons sortir par là, monsieur le président de l'Assemblée nationale de l'île Maurice, le très honorable Souruj Fokia. Quelles sont vos attentes?
Mes attentes, personnellement, je suis très confiant, je suis convaincu que, à force qu'on a parlé un peu partout et sur toutes les plateformes, les forums, et nos États, nos parlements commencent à prendre conscience des problématiques et en même temps aux défis que nous tous nous faisons face en ce moment-ci.
Merci, Monsieur le Président.
Merci, Madame.
For news out of Cameroon, some Cameroonian youths, owners of prominent startups, are stepping off the annual general meeting of the African Development Bank to project their business models. They have joined in the conversation to be the builders of Africa, especially through artificial intelligence. Today's high point is on developing innovation ecosystems for AI in Africa. Veronica Benyala reports.
The Cameroonian delegation to the annual general meeting of the African Development Bank is led by the Minister of the Economy, Planning and Regional Development, Mr. Alamin Ousmane May. As young people, they know their business can only break through with the use of artificial intelligence. Mr. Fotsongasa is founder of Gajo Livestock. They have developed an application which can serve as a solution to limited access to veterinary doctors.
Some of the livestock actors, they don't have easy access to veterinary doctors, technicians. We decided to onboard a system that is going to help them communicate. And our system that we have, which is Farm Genius 2.0 on our platform, when you ask a question about livestock farming, he responds to you immediately.
In the domain of education, Boris Ngala, founder of BB Incubator, is the promoter of Yakili.
Yakili is Africa's first bilingual, curriculum-based, inclusive animated video lessons platform from primary, addressing education from primary to secondary school.
A Kenyan member of parliament cautions that AI must be incorporated into all business ventures.
Africa will have to walk into the fourth industrial revolution with a new mindset driven by the idea that this opportunity presents itself for Africa.
It is worth mentioning that Cameroonians here in Nairobi are also lobbying for partnership and financing. Veronica Benyela, CRTV News, Nairobi, Kenya.
Nairobi au Kenya, où nous restons pour parler de l'opération de charme des jeunes start-up camerounaises à la conquête de partenaires aux assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Des jeunes qui ont donné à voir leur génie créateur et leurs différentes innovations à la faveur d'un atelier sur le développement des écosystèmes d'innovation pour l'intelligence artificielle en Afrique. Détail avec Marie-Laurence Nke, envoyée spéciale de la CRTV en Nairobi.
Cette année, les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement à Nairobi accueillent de jeunes entrepreneurs camerounais venus présenter leurs innovations et rechercher des partenariats. Lors d'un atelier intitulé « Développer des écosystèmes d'innovation pour l'intelligence artificielle en Afrique », ces jeunes talents ont exposé leurs solutions technologiques dans divers secteurs, tels l'agriculture, les finances, l'économie.
Nancy Nalova, PDG de Nanagric Cameroun. Nous sommes une coopérative qui fait dans la transformation de manioc en tapioca, en couscous et en farine de manioc. Nous sommes ici au Kenya pour montrer les bonnes choses qui sortent du Cameroun, aussi mettre le Made in Cameroun en valeur.
Francine Elemba, promotrice du centre de gestion agréé Simply Office. Nous faisons principalement dans l'accompagnement à la création d'entreprises, le suivi fiscal, le suivi comptable, le choix de la forme juridique des entreprises. Véritablement, les gens veulent se lancer dans les activités, mais ils ne sont pas de professionnels du domaine. Donc nous leur facilitons la tâche pour pouvoir mettre sur pied leurs activités et pouvoir pérenniser dans la durée.
Les jeunes entrepreneurs camerounais ont profité de cette plateforme pour établir des contacts avec des investisseurs et des experts. Ils cherchent activement des partenariats financiers et techniques pour transformer leurs idées en solutions concrètes et viables. L'enthousiasme suscité par leur présentation a été palpable, de nombreux investisseurs exprimant leurs intérêts. Cette participation témoigne du dynamisme et du potentiel des startups africains prêtes à jouer un rôle clé dans le développement technologique du continent.
Francine Elenva, si nous sommes aujourd'hui à la BAD, c'est pour représenter valablement le Cameroun, chercher les partenaires financiers parce qu'on s'est rendu compte de la difficulté que les Camerounais ont à implémenter leurs projets.
Ces assemblées, qui se poursuivront toute la semaine, offrent encore de nombreuses opportunités de collaboration et de réseautage. En direct de Nairobi, Marie-Laurence Kay, envoyée spéciale.
Time to talk sports with senior reporter Simon Lyonga. Hello, Simon.
Hi, Demori.
Good to have you here.
Thank you very much.
We begin with the 2024 edition of the University Games in Garoua, where the field events in athletics just ended with the University of Douala winning gold.
It was a medal in the javelin throw for women, a win that takes their total to 13 medals won this far. The games still have the University of Yaoundé Tools who are riding high in the top seats. They have 22 medals, 12 of them in gold, 5 silver and 5 bronze. The University of Yaoundé 1 occupied the second position with 12 medals, 5 of them in gold, 4 silver and 3 bronze. To note that the Ngaoundéré University had the best jump this day, moving from the 9th to the 5th position after winning 2 gold medals in the 800 meters event in both the men and women's categories. Meanwhile, the town of Garoua is also living to the tune of music and human graphic movements dished out by the fan clubs of the various universities. They too are in competition for gold. CRTV's Atiu Feze has been watching them perform and sent in this report.
University fan clubs display their unique style during the cultural exhibition here in Jumasi. Blended performances of traditional and contemporary dances. The choreography is meticulously planned, showcasing not only their support for their teams, but also their deep-rooted cultural heritage. The University of Yaoundé 1, nicknamed Atomic Bomb, mesmerized the audience with a dance that integrates traditional steps from the Fangbeti cultural zone. No room for failure. Their mental and physical determination is above the climatic inconvenience. The fan club team of the Yaoundé University Institute of Science and Technology rely on their determination to get the golden medal of this fan club competition.
Even though we are new in this competition, we are going to beat them with the perfect hand and perfect ambition.
Other fan clubs present are the Queens of the University of Boya, showcasing the cultural pride and traditions of communities of the Southwest region, which they consider as an asset to win this competition.
We dance, it's called Cha-Cha, from the Southwest region. We are out to create an awareness that female genital mutilation is not something good for women.
These fan clubs are more than just supporters. They are ambassadors of their culture and tradition. Their dedication and passion are evident. Atu Feze, Angelin Patrick Mbala, Jumasi, CRTV.
And on to football, Simon, as we continue with matches of the round of 16 of the National Challenge Cup.
This afternoon, Maureen, there were two games with two more clubs of the regional leagues winning through the next round. Sizo FC of Kribi goes through after beating Marwa FC by 1-0, while Rizia Dunun qualified after outplaying Krimi of Garoua by 2-1. Tomorrow, there will be other matches in Melong, two games, Fovu Azu versus Fovu of Baham, and AS Fortuna of Yaoundé versus Bambutus of Mbuda. At the Center for Excellence in Bankomo, there will be two other games also, Jiko FC of Banjun versus Tarzan of Obala, and Canon Sportif of Yaoundé versus Indomable FC of the same city. And at the Fekafu Training Center in Oja, Mintak FC versus Bang Bullets of Nkambe, and Balmayo FC versus Dynamo of Douala.
Et toujours au sujet de la Coupe du Cameroun de football, suite et fin des 16e de finale ce mercredi, vous le disiez, Simon, avec des rencontres qui vont se disputer au stade municipal de Melangé, au centre d'excellence de la CAF en Bankomo, et à Oja, au centre technique de la Fekafoot. De choses en poignade en perspective. Didier Mario, c'est tout dit.
Canon Sportif de Yaoundé, club le plus titré dans la compétition, 11 trophées au total, sera face à Indomable équipe de la deuxième division dans la région du centre. Cette confrontation intervient au centre d'excellence de la CAF en Bankoumo après une autre bataille entre un club d'élite, Njiku FC de Banjoun, et le divisionnaire Tarzan Dobala. Au centre technique de la FECAFOOT à Oudia, Mintak FC de Nangaïbougou jouera contre Bambolette d'Nkambé dès 13h30. À 15h30, Mbalmayo FC va se mesurer à Dynamo de Douala. Au stade de Melong, le détenteur du trophée et vainqueur en 2001 et 2010, Fovo Club de Baham sera face à Fovo Azur Elite. Et puis, on suivra des retrouvailles entre AS Fortuna et Bambotos de Mbouda. Ces matchs viendront mettre un terme pour les 16e de finale, avec sans doute d'autres surprises.
We end, Simon, with Sambo, the team Cameroon going for the top seat at the 18th African Championship that opens next Saturday in Cairo, Egypt.
The athletes and coaches of Team Cameroon are expected to leave the country on Thursday for that competition that will be in its 18th edition. The 12 athletes will feature in Sambo Sports and Combat Sambo with the objective of winning the top seat after losing that to Morocco in the 17th edition of the competition last year in Casablanca. One of the athletes is the world champion in the more than 98 kilograms category in Combat Sambo, Maxwell Njantunana.
Everything is good, the preparation, and psychologically, everything is going very good to be ready for the fight. We do everything right, technically, psychologically, and we talk about the different role of grading as well, to have everything good for the different fight on the day.
Going for gold, that's always what has been our ultimate goal, ambition. We intend to keep the lead that we have in Africa. And so many countries are coming up. We have the Gabonese and then Egypt, which was a very small Sambo country this time around. They are coming up strongly. So we no longer have only Morocco in North Africa who are our main opponents. But we are the best. We are the lions. We intend to roar the most. We are the kings of the forest.
To note that one of Cameroon's medal hopefuls, Raoul Ndima, will be absent from that competition due to injury. Maury.
Thank you very much, Senior Reporter Simon Leunga, for that sports package.
A pleasure.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin du 17-18. Une présentation de Maureen Wanzimula et Larissa Engodo. Co-présentation sous la coordination de Florence Moko, rédacteur en chef. Merci d'avoir suivi. Merci de rester sur la CRTV.